Bien. Alors, on va applaudir encore très, très, très fort pour démarrer la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'université de l'amphithéâtre de Moussompo à l'université de Kolwezi au CAPI Service émission spéciale. Chers camarades, sous vos applaudissements, merci d'applaudir très, très, très fort. Bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la sous-traitance. Quelles sont les dispositions légales concernant la sous-traitance en République démocratique du Congo? Et pour en parler, nous avons nos invités ici sur ce podium, M. Chadrak, qui est le président de la concertation de la société civile du Lualaba. Bonjour, M. Chadrak.
Monsieur Dodi.
Merci de l'applaudir très, très, très fort. Non, c'est tellement faible. Est-ce qu'on peut applaudir très, très, très fort? Bien. Nous avons également en ces lieux Monsieur Henri Yav Nawej. Il est entrepreneur et directeur général d'une entreprise de la place. Bonjour Monsieur Henri Yav.
Bonjour Monsieur.
Merci de l'encourager également par vos applaudissements. Alors, vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons plusieurs entreprises qui recourent à la sous-traitance pour des prestations de services. Mais cependant, selon les experts, la loi relative aux modalités de la sous-traitance n'est pas appliquée dans notre pays. Or, d'après la loi, la sous-traitance est réservée d'abord aux entrepreneurs congolais. Alors, cela est souvent source de nombreux problèmes, particulièrement dans les secteurs miniers. Alors, quelles sont les dispositions légales concernant la sous-traitance en République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines des mines? Alors, nous allons parler de cela avec nos invités. Monsieur Chadrak, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dodi.
Alors, la sous-traitance, quel état des lieux vous faites de la sous-traitance ici, dans la province du Lualaba, dans les domaines miniers particulièrement?
Oui, la question de la sous-traitance est une question qui préoccupe la province du Lualaba. Et cette question, nous en discutons tous les jours. On a tenu même des ateliers ou des forums pour discuter avec les responsables des entreprises minières comment ils peuvent mettre en pratique la loi sur la sous-traitance. C'est la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 qui a des dispositions très claires qui pouvaient promouvoir la mise en œuvre de cette loi et qui pouvait permettre aussi aux Congolais de tirer profit de l'existence des entreprises principales qui existent. On en a cité ici par le professeur qui venait de terminer l'émission, mais l'état des lieux fait que les choses ne marchent pas. Nous pouvons vous dire que clairement au Lualaba, la main-d'œuvre locale, les PME locales n'est pas prise en considération parce que il est vrai, quand vous regardez dans le palmarès du guichet unique de création d'entreprises, dont nous, société civile, nous avons milité à Kinshasa pour amener ce guichet afin de permettre aux Congolais, aux Lualabé, de pouvoir accéder facilement à créer des entreprises au coût très moindre. Mais aujourd'hui, on en a par centaines d'entreprises, mais qui n'ont pas trouvé de marché. Parce que la plupart des marchés dans la sous-traitance ici au Lualaba, ces marchés sont occupés par les entreprises étrangères. Et si je parle des entreprises étrangères, les mêmes entreprises étrangères qui sont ici occupent des gros des marchés. Vous trouvez une entreprise qui a un grand marché qui pouvait être disséqué en plusieurs marchés qui bénéficieraient par exemple à 50 ou 100 entreprises locales. Mais vous trouvez cet un seul entrepreneur étrangers qui occupent ces marchés-là. Comment, avec cette politique, on peut dire que les Congolais ou les Lualabais peuvent tirer bénéfice de l'existence des entreprises principales?
Mais on a appris que il y a un problème, c'est que les entreprises congolaises ne peuvent pas, n'ont pas assez de moyens pour répondre aux besoins de ces entreprises. Par exemple, on vous dit qu'il faut fournir 10 000 pièces de rechange le mois et vous devez préfinancer et on va vous payer dans 45 jours. Nos entreprises localement n'ont pas assez de moyens pour répondre à ces demandes.
Ce sont les raisons. Oui, ce sont les raisons que donnent les entreprises parce que dans nos démarches, nous avons été rencontrer ces entreprises principales. Ils donnent ça comme raison que les Congolais n'ont pas des capacités financières à pouvoir fournir ce qu'ils demandent. Mais nous avons la loi. Cette loi tire sa source dans la Constitution. Dans son article 35, l'État congolais dit qu'il veut promouvoir et protéger l'expertise locale. Et c'est là, il faut mettre en place une politique. Mais l'État qui crée des lois dans notre pays, les lois nous en avons autant, mais est-ce qu'il y a une politique qui suit, qui permet que ces lois puissent vraiment être mises en application? Nous avons ici, il y a des banques qui existent, ce sont des banques commerciales. Ces banques commerciales prêtent l'argent à un taux d'intérêt très excessif, qui fait que lorsque un Congolais accède à un crédit, le remboursement devient difficile parce que le taux est très élevé. Nous n'avons pas de banques d'investissement dans notre pays. Donc nous avons des lois, mais des mécanismes qui accompagnent ces lois, l'État lui-même ne met pas en œuvre. Ce qui est un handicap majeur afin que ces entreprises qui viennent, quand vous les demandez, par exemple, dans le monde des entreprises, vous avez des Chinois, vous avez des Indiens, mais les capitaux qu'ils vous amènent, ce sont des capitaux de leurs États. Mais pourquoi l'État congolais avec des millions, on a parlé ici de la redevance minière, c'est pas l'argent qui manque, mais on n'a pas une volonté politique réelle qui montre que cette loi que nous venons de mettre en œuvre, il faut qu'on mette aussi la politique parce que nous voulons promouvoir l'expertise locale. Avec quoi? Il faut des moyens. Des moyens, il faut créer des banques d'investissement. Mais ces banques n'existent pas.
Bien, Monsieur Henri Yavnawej, vous êtes entrepreneur. Alors, dites-nous, parlez-nous de votre expérience par rapport à la sous-traitance ici, dans le Lualaba.
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Moi, je suis ingénieur de formation, donc je suis à côté d'un juriste. Je vais peut-être pas aborder les questions juridiques, mais moi, je suis dans les questions plus ou moins pratiques parce que je suis entrepreneur. Je viens d'abord d'un cursus d'ingénieur dans les mining, choqué par cette réalité de voir les entreprises étrangères venir commencer des affaires chez nous, sortir avec des millions. J'ai été décidé un jour de claquer la porte pour faire une entreprise. Certes, ça n'a pas été facile parce que le cadre d'encadrement ou d'accompagnement dans la sous-traitance n'était pas facile à son temps parce que moi j'ai commencé depuis 2014. Bien sûr, cette loi de sous-traitance est entrée en vigueur depuis 2017. Il y a eu beaucoup de difficultés pour la mise en application, mais comme vous avez posé à mon prédécesseur la question sur le préfinancement, les dispositions de cette loi prévoient que 30%, sitôt que vous êtes possédant d'un contrat dans les entreprises minières, vous devez bénéficier de 30% pour vous permettre de financer le projet. Mais ce qui n'est pas le cas, ça veut dire que l'application de cette loi est faite en partie. Ça fait que les
entreprises... Vous avez bénéficié, qui doit vous donner ces 30%-là?
En principe, l'entreprise, en rapport avec les banques, on doit mettre une disposition ou un mécanisme en place pour que vous puissiez bénéficier d'un préfinancement de 30% sous la valeur du marché. Mais ce qui n'est pas le cas, ça veut dire que quand vous avez un contrat, vous devez aller à gauche et à droite pour vous préfinancer vous-même. Et comme mon prédécesseur a dit, on n'a pas les banques d'investissement. Les banques sont des banques commerciales. Si vous n'avez pas une relation directe avec cette banque qui a duré peut-être 5 ou 8 ans, vous êtes totalement disqualifié. Ce qui fait que les entreprises qui commencent tout de suite se voient en difficulté pour entrer dans cette compétition. Et bien sûr, quand nous parlons des entreprises internationales, entre autres les entreprises des Sud-Africains et les autres, ils ont des lignes de crédit, ils ont des capacités financières qui nous dépassent. C'est ce qui fait que, dans les mêmes conditions que ces entreprises, nous sommes un peu mis de côté parce que nos capacités financières sont petites. Et à une certaine échelle de marché, on vous demande deux fois, si ça se fait à l'international, des garanties. Et vous connaissez avec nos systèmes bancaires, les garanties ou les lignes de crédit, ça n'existe presque pas chez eux si vous n'avez pas une garantie à hauteur. Or, il y a des dispositions, je pense, l'État congolais, à un moment donné, on parlait d'un fonds de garantie pour les entreprises jeunes. Mais toutes ces choses là-bas devraient, surtout dans la province de Lualaba, devaient être mises en place le plus rapidement possible pour aider cette jeunesse qui va terminer les études demain à entrer dans ce domaine qui crée facilement des millionnaires. Ça signifie que si les dispositions réglementaires, les dispositions de droit n'est pas bien encadrées, donc nous allons rester toujours dans des cris. Là, c'est quelques entreprises, peut-être occidentales. Mais si nous parlons des entreprises chinoises, là, n'en parlons même pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sous-traitantes et ils sont entreprises principales. Ils ont créé des entreprises 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 7. Ça veut dire 1, et peut-être dans tel domaine, 2, et t'inquiète. Ça veut dire jusqu'au 7. Et l'extraction minière ou la production de cuivre.
Toute la
de
chaîne
de
valeur.
Toute la chaîne de production, toute la chaîne des valeurs. C'est eux-mêmes qui sont en train de l'assurer. Et quand vous y allez, bon, si vous n'avez pas vous n'êtes pas chinois ou vous ne parlez pas cette langue, vous êtes totalement disqualifié. Voilà un peu l'état des lieux mitigeux, si on peut le dire, de la sous-traitance au niveau de la province du Lualaba.
Maître Chadrach, mais la loi stipule clairement que les entreprises dans les domaines de la sous-traitance doivent être des droits congolais. Mais comment expliquer que les Chinois créent aussi des entreprises, tu vois, établissements, Kabongo ou tout ça, mais ceux qui dirigent sont des Chinois?
Cette question prouve à suffisance l'irresponsabilité des autorités congolaises, parce que quand vous prenez l'article 21 de cette loi qui dispose qu'il y a un contrôle prévu par les autorités et au niveau national, au niveau provincial et local. Donc, à tous les niveaux, les autorités avaient des compétences de faire les contrôles dans les entreprises afin de faire l'état des lieux de la sous-traitance. Comment est-ce que les entreprises principales utilisent la main-d'œuvre locale? Mais est-ce que ces autorités font ce travail? Est-ce qu'ils font ce contrôle? S'ils font ce contrôle, pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas vu une seule entreprise sanctionnée? Parce que quand nous faisons l'état des lieux, il est clair, comme il le donne là, comme il le dit, dans toutes les entreprises chinoises, nombreuses sont des entreprises qu'elles-mêmes détiennent, qui sont en train de sous-traiter. Mais les Congolais ne sont pas là. Mais les autorités qui sont passées dans toutes ces entreprises, qu'ont-ils donné comme sanctions? Parce qu'il est prévu des sanctions. Parmi les sanctions, il y a des amendes qui vont à hauteur de centaines de millions de francs congolais. Il y a aussi la fermeture de l'entreprise. Aucune des entreprises, bien qu'ils soient hors la loi, bien qu'ils pratiquent les choses contrairement aux dispositions légales. Donc nous trouvons que, je vous ai dit d'entrée de jeu, que nous ne percevons pas la volonté réelle politique du gouvernement congolais. Parce qu'ils ont mis en place une loi, mais accompagner la mise en œuvre, la mise en application de cette loi par ces étrangers, ça ne suit pas. Ou ce sont des autorités qui passent, une fois de retour, les mêmes Chinois reviennent demain pour les visiter avec des cadeaux et c'est fini. Les Congolais sont en train d'en partir. Je vous ai dit, il y a des centaines d'entreprises congolaises qui ont été créées, mais aujourd'hui n'ont pas accès au marché. Donc, les dispositions sont là. Il faut que l'État prenne conscience. Si réellement il a les soucis d'aider les Congolais à émerger. On a parlé de l'émergence de la classe moyenne. Nous disons toujours c'est un slogan populiste parce que jusqu'à ce jour, qui est ce Congolais aujourd'hui, nous pouvons dire il est millionnaire. On n'en a pas. Il l'a dit, mais quand vous voyez les mêmes sous-traitances qui sont venues, qui sont détenues par des Chinois, par des Indiens, ce sont des millionnaires. Et les Congolais sont choqués de voir ça sur les sols de leurs ancêtres, mais ils sont tentés de bénéficier de l'impunité de l'accompagnement. Parce que la plupart de ces entreprises étrangères qui opèrent, qui ont eu des marchés, ont pour bénéfice la protection des autorités politiques. Qui lui dit, je vais faire tout que tu gagnes. Oui. Pas seulement des cadeaux, mais ils ont des commissions, des grandes commissions. Un million parfois, qui dit, oui, tu gagnes des marchés, oui. Mais les Congolais, il faut les laisser.
Et que fait la société civile? Est-ce que vous menez des actions pour dénoncer ce genre de situation?
Je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois. On en a dénoncé autant de fois. On a organisé des forums pour discuter avec les autorités. L'autorité compétente nationale qui gère la sous-traitance était pour la régulation de la sous-traitance. On a eu des débats. Et les choses demeurent telles qu'elles étaient auparavant.
Il n'y a pas de changement.
Il n'y a pas de changement jusqu'à ce jour.
Voilà des questions dans la salle, rapidement. Merci, approchez avec vos questions. On va prendre une série de 5 questions et ensuite on va les intervenants vont répondre et puis on va prendre une autre série. Bonjour monsieur.
Bonjour, merci monsieur Jody et merci à l'équipe de Radio Capi pour ce bel exercice et surtout pour ce thème intéressant. Ma question, je vais l'adresser, je vais me présenter, c'est Gomer Dipang, je suis journaliste de Mikuba Radio-Télévision. Mm-hmm. Ma question, je vais l'adresser aux deux intervenants, Monsieur Henri Yave et le président du cadre de réconcertation de la société civile. Quel regard, personnellement, vous avez de l'apport de l'autorité de régulation de la sous-traitance ici au Lualaba? Est-ce que cette autorité de régulation a fait suffisamment selon vos attentes, et surtout que, fraîchement, cette autorité de régulation au niveau national venait d'avoir des nouveaux animateurs. Est-ce que on va marquer une pause? Est-ce que la nouvelle équipe va se relancer, va tenir compte de vos desiderata que vous avez posés ici au niveau local? Comment vous entrevoyez les choses?
Merci, Gomer. Bonjour.
Bonjour, merci. C'est Serge Souzo. Je suis enseignant à une école en économie. Ma préoccupation s'adresse premièrement aux représentants de la société civile. Il a tirer les draps de son côté, mais par rapport aux réalités que nous avons ici en province, on a vu des ONG venues de l'Amérique du Sud et des autres continents pour réclamer justement les parts de la société, plutôt de l'État congolais, dans l'investissement au niveau de TFM, qu'on a minimisé à 18%, 500 collines et montagnes, qu'on a sous-estimé. On n'a pas vu un organisme au niveau interne, au niveau domestique, réclamer et avoir de bons résultats. Mais ces gens-là, quand ils sont arrivés, nous avons quitté de 18% à 20%. Et aujourd'hui, nous avons, depuis juin, on ne sait plus exporter, on produit à TFM. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que TFM a échappé au fisc. TFM a un problème de plus ou moins 10 milliards avec la GECAMINE et l'État. C'est le tribunal de commerce au niveau de Kinshasa qui a tranché pour que TFM puisse donner 10 milliards comme dommage. Pourquoi ? Parce que on a négocié mal les contrats. Ils réinvestissent. Parfois, ils disent qu'ils ont des crédits et quand on suit ces grandes institutions financières, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce fait la société civile ? On attend encore que les ONG de l'Amérique du Sud puissent venir réclamer. Parce que jusque-là, vous regardez, il y a des centaines de tracts qu'on ne sait même pas rétrocéder la redevance. Pourquoi ? Parce que l'État a une contention avec TFM. Et tout ça, si on entre à KCC et partout là, tous les problèmes que nous pouvons avoir. Au niveau des entrepreneurs, je sais que je suis aussi consultant. Ça choque. Mais pourquoi est-ce que vous ne constituez pas un forum ou une plateforme ? Parce que vous savez bien qu'ici, nous avons plus ou moins 15 milliards d'investissements sans un marché boursier. Nous n'avons que des banques commerciales qui ne prêtent qu'à plus de 3 mois et à moins de 3 mois, avec des taux d'intérêt exorbitants. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous
est-ce qu'il n'y a pas une agence du fonds de promotion industrielle ? Bon, ça, ça concerne pas la sous-traitance.
Il y a une agence, mais des façades. Ça n'existait pas nulle part. Même si vous avez un bon projet, je ne sais pas comment ça fonctionne. Personne n'a accédé à ces fonds. Alors, pourquoi est-ce que eux-mêmes, parce que nous avons quand même des petites et moyennes entreprises ici qui émergent. Nous avons Mouska, nous avons GPM et les autres. Pourquoi est-ce que vous ne vous constituez pas un forum ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas les plaidoyers pour que vous puissiez avoir un marché boursier afin de financer non seulement vos activités de sous-traitance, mais aussi au niveau de l'artisanat minier ? C'est là qu'il y a beaucoup d'argent aussi. Combien de creuseurs ? C'est plus que tout ce que les entreprises ont. Et ils gagnent combien par jour ? Beaucoup d'argent qu'ils gaspillent parfois. Et pourquoi est-ce que vous ne savez pas vous constituer un forum pour que vous puissiez avoir un marché boursier, un marché de capitaux ? L'Alabé, si vous ne voulez pas dire congolais, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a beaucoup d'argent, c'est concerné les redevances minières. Et c'est que vous gagnez aussi parfois, et vous orientez mal parfois aussi. Ça aussi, c'est ma préoccupation. Et je pense, ce faisant, ça sera une réussite.
Merci beaucoup, monsieur. Au suivant, il n'y a pas de dames ? C'est toujours intéressant qu'il y ait également des dames qui s'expriment. Donc, nous vous attendons. Allez-y, monsieur, bonjour.
Bonjour, moi c'est Jonathan Djibouka-Songo, étudiant de L2GFI. Ma préoccupation est la suivante. Par rapport à tout ce qu'on a parlé de la sous-traitance, premièrement, ici au Lolaba, j'aimerais parler, et je vais juste m'adresser à l'activiste des droits de l'homme. Monsieur, parfois vous ne prenez pas des plaidoyers des travailleurs. La sous-traitance est dans les mains des Congolais. Parfois, on commence à les négliger avec raison. Pourquoi ? Un Congolais, lorsque c'est lui qui est le boss, c'est lui qui gère, à un certain temps, auprès, donc, à quelques jours de la paye, vous allez voir le boss voyage, le boss, il prend ses bagages, il part.
Et quand il n'est pas là, on ne paye pas.
On ne paye pas, alors ça cause des problèmes. Il y a maintenant des réclamations, même si les gens pouvaient brûler les pneus. Vous avez entendu, là, avant qu'on commence la deuxième partie de l'émission, on a dit « Aturier Bouleto Namambo ». Il y a des personnes, à des fois, à tout moment, il y a des travailleurs qui s'élèvent au créneau pour réclamer leurs droits par rapport à tout ça. Mais la société civile, dans ces cas, c'est comme si elle est calme et ne réagit pas. Donc, dans des histoires comme ça, est-ce qu'on pourrait donner un marché à une entreprise, d'ailleurs, d'abord, au préalable, l'entreprise ne parvient pas
à bien gérer d'abord le personnel qui est vraiment un élément moteur de la production.
Et il y a aussi souvent des plaintes. Vous êtes dans la même entreprise. Ceux qui sont directement liés, ont des contrats avec l'entreprise, sont bien payés. Tandis que les autres qui sont sous-traités,
il y a aussi une discrimination.
Il y a une différente discrimination dans le traitement.
Ouais. Il y a aussi un autre problème, c'est par rapport aussi à la qualité du travail que la sous-traitance donne. Vous allez voir pourquoi les entreprises, à des fois, ne parviennent plus à donner confiance aux sous-traitances par rapport à la qualité du travail. L'inexpertise aussi. Je quitte aussi les domaines miniers pour, par exemple, les domaines social, de l'asphaltation des routes. On s'est rendu compte que ce que les entreprises étrangères effectuent comme travail par rapport au genre l'arrangement des routes, vous allez voir, c'est impeccable. Mais si un Congolais prenait ses marchés, vous allez voir, c'est du bricolage. On bricole, on fait des histoires comme ça pour quelques temps et puis avec la pluie et tout est par terre. Avec des marchés comme ça, et si on continue toujours à donner à des personnes pareilles, c'est comme si on commençait à rentrer sur des mêmes choses. J'aimerais aussi que vous puissiez aussi mettre l'accent sur certains points comme ça, afin qu'on puisse élever encore la sous-traitance ici en République démocratique du Congo.
Merci monsieur. Un autre intervenant.
Merci Jody pour... la parole. Je me nomme Emma Kasongye. Je suis
journaliste
des questions spéciales de l'économie ici dans la province. Moi, je vais aller tout au droit vers le but. C'est-à-dire, le problème est pour le Congolais même. Nous pouvons donner autant de raisons. Au plus haut niveau, ce sont les dirigeants, ce sont des Congolais. Ceux-là qui gouvernent les entreprises ici, au Lualaba, à Kolwezi ou partout ici au Congo, c'est toujours des Congolais. Quand nous disons le problème de la sous-traitance, d'abord la loi de la sous-traitance, on attribue la sous-traitance aux Congolais. Or, ceux-là qui régulent le système de la sous-traitance, c'est que le Congolais. Je peux dire que le problème est pour le Congolais eux-mêmes. Avec le financement que nous sommes en train de pleurnicher, non, le financement, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'entreprise, les banques d'investissement plutôt. Je peux dire la fiabilité, d'abord la confiance qu'on peut accorder à un Congolais. Les banques sont là, ils peuvent donner de l'argent.
Mais pourquoi ils font confiance aux Congolais, ils font confiance aux autres?
Ils font confiance aux autres parce qu'ils respectent leurs engagements. Il y a mes prédécesseurs, ceux-là qui venaient de poser la question, les questions, ils ont dit, quand on donne, on verse l'argent au DG de l'entreprise, il prend le vol, il part
en Europe.
Il va en Europe, il gaspille tout l'argent, et quand ils reviennent, c'est-à-dire que les travailleurs n'ont rien. Est-ce qu'à de telles personnes, on peut donner de la confiance? Moi, je pense que le système-là, de régulation de la sous-traitance, est freiné par le fait que le Congolais eux-mêmes n'aspirent pas. Donc, on ne peut pas leur faire confiance pour que les choses...
Ils font preuve de mégestion.
Voilà, de mégestion. Merci beaucoup.
D'accord, merci monsieur pour la question. Oui, rapidement, nous parlons de la sous-traitance.
Je reviens encore pour la deuxième fois parce que vous avez touché un point d'entrepreneuriat. On ne peut pas accorder un marché lorsqu'il n'y a pas une formation. Je voulais juste poser la question... aux responsables de la société civile. Est-ce qu'il y a au moins des formations que vous organisez pour former les gens comment gérer les marchés de sous-traitance? Et aussi, autre point qui s'oppose, c'est quoi? L'entrepreneuriat n'est pas considéré en heure d'essai. Comment et ça commence où? Tel que nous sommes aujourd'hui les étudiants, tout ce que nous apprenons, c'est pour aller servir les entreprises déjà existantes. Il n'y a pas de matière qu'on doit mettre en nous que nous avons aussi une capacité là de créer, nous avons aussi des responsabilités. Tout ça c'est pour développer notre nation. Et une nation ne peut pas se développer avec les salariés non plus. Une nation se développe, c'est pas quand il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et d'où viennent les entrepreneurs? C'est lorsqu'il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de conférences, il y a des séances.
D'accord, donc vous demandez à la société civile d'organiser beaucoup plus de formations.
Oui.
Dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Oui, oui, parce que moi également, je participe dans des formations que M. Henri organise. J'aspire devenir aussi un jour un entrepreneur et je le fais surtout en digital, surtout je m'intéresse à l'Internet et autres. L'entrepreneuriat reste au centre du développement. Tant qu'en RDC, nous n'avons pas compris l'importance de l'entrepreneuriat, rien ne doit marcher.
Merci, monsieur. D'accord.
Pardon un peu, je dois arriver à la fin. Nous condamnons un peu les Congolais partout là et les talents. Les problèmes, comme moi, tel que je suis jeune. Si je veux bien améliorer mon pays, je dois dire, les problèmes, c'est moi. Quand j'accepte d'abord mes responsabilités, je dois voir où est-ce que j'ai chuté pour améliorer. Comment ça fait-il que mon problème, je dois attribuer à une autre personne?
D'accord.
Je veux assez que chaque personne prenne au moins une conscience de dire qu'il a un problème. Donc, je peux dire, de développer cette notion, d'émerger D'accord. cette notion. Et surtout de toucher
Merci, monsieur. Vraiment, Merci pour cette intervention. Ah, il y a une autre question. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ma question est à la fois adressée aux entrepreneurs et
à la société civile.
Oui. Ces jours-ci, sur France 24, il y a plusieurs débats sur le réchauffement climatique. Nous sommes dans une province où on exploite trop les minerais. Ma question est à savoir qu'est-ce que l'État civil prévoit et quelles sont les mesures que les entrepreneurs sont en train de mettre en marche pour lutter contre ces réchauffements climatiques. L'on voit, je suis vu un documentaire qui disait, le traitement des minéraux produit plus de gaz à effet de serre. Mais l'on voit les entreprises, les sous-traitants, excusez-moi, polluer l'atmosphère, polluer notre environnement. Je reste à la GECAMINE, il y a des entreprises un peu partout et c'est pas du tout vivable. Qu'est-ce que l'État civil et ceux qui...
La société civile.
Ouais. Qu'est-ce que la société civile
oui.
et des entrepreneurs sont en train de mettre en œuvre pour non
Mais
seulement...
Ceux qui polluent, est-ce que ce sont les sous-traitants ou ce sont les entreprises mères?
Je ne suis pas de Colouésie, alors je ne sais pas où est la sous-traitance, où est...
Oui, oui d'accord.
Oui.
Les deux, hein? Certains disent que les deux polluent. D'accord.
Alors, oui. Ma question est à savoir, qu'est-ce que vous prévoyez, vous qui êtes État civil?
La société civile.
La société civile, je ne suis pas juriste, excusez-moi, je suis étudiant en médecine. Qu'est-ce que vous prévoyez pour protéger non seulement notre planète, notre environnement, mais ces personnes qui vivent autour des entreprises. Il y a du côté GECAMINE, cette entreprise, je ne connais pas le nom, si on peut m'aider. Pardon? Sicomus, oui, qui produit, on dit explosion.
Ça produit quoi?
Des explosifs.
Oui.
Et la GECAMINE, toutes les maisons ont des fissures. Il y a des maisons qui s'écoulent. Il y a tellement de dégâts que ces gens sont en train de produire, mais et eux et les autres ne font rien pour aider cette population, nous qui sommes Congolais.
D'accord. Merci, monsieur, pour cette question, cette préoccupation. Monsieur Henri Avnawej, entrepreneur, à vous la parole.
Merci beaucoup encore une fois pour l'opportunité. Disons qu'on peut dire que moi, en tant qu'entrepreneur, sur chaque facture payée, sur chaque facture payée, j'ai 1,2% que la RSP défalque, qui est un droit pour elle, parce que c'est l'autorité de régulation. Mais en contrepartie, je suis un peu choqué parce que je ne vois pas un peu ce que cet argent fait. Parce qu'en principe, il devait peut-être avoir une banque dans laquelle on pouvait à la limite aussi faire recours dans le cadre des difficultés, mais on ne voit pas, personnellement je ne vois pas. C'est vrai que aujourd'hui, dans certaines entreprises, si vous n'avez pas le document de RSP, comme je dis dans certaines entreprises, en tout cas, vous n'allez pas exercer si vous n'avez pas le RSP. Et le RSP, c'est pour les Congolais. Pour les entreprises internationales, on les taxe 14%, ce qui est beaucoup, mais pour nous c'est 1,2%.
c'est un avantage, mais cet argent ne devait pas seulement les aider à payer les salaires et acheter des voitures carrosses, ça devait avoir un retour sur...
Donc toutes les entreprises sous-traitantes payent un droit à l'autorité de régulation.
1,2% sur chaque facture payée, ce qui est énorme.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Ok. Bon, cette question...
Mais entre-temps, on ne vous met pas dans les conditions qu'il faut pour bien exercer.
Bon, la RSP devait être réellement un syndicat, mais nous ne sentons pas son implication. C'est vrai que certaines entreprises, comme j'ai dit, les entreprises occidentales, elles font semblant d'être là, mais les gros marchés, ça se passe soit en Afrique du Sud, soit c'est en Suisse, ça se passe à l'extérieur. Les petits marchés d'une certaine valeur, en deçà de 1 million ou autour de 1 million, ça se passe au Congo. Mais les gros des gros, ça ne se passe pas ici.
Par exemple, vous, quel est le dernier marché que vous avez gagné, par exemple?
Bon, le dernier marché que j'ai gagné, c'est 1,2 million que je suis en train d'exercer.
C'était pour quel genre de travail?
Moi, j'offre la main-d'œuvre. Donc, j'offre les techniciens. J'ai des ingénieurs électroniques, en fait, instrumentistes, mécaniciens, des soudeurs et toutes ces choses-là. C'est ce que j'offre dans les entreprises ici de la place.
D'accord.
Donc, pour dire qu'il y a 1,2% qui va rester. Mais nous voulons sentir que nous sommes syndiqués et nous sommes vraiment protégés et nous avons des marchés, même dans les entreprises des Chinois, où c'est tellement difficile d'y entrer. Donc, il faudrait que l'autorité de
régulation... Quelqu'un a dit tout à l'heure pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser,
justement, en
plateforme.
Cette question, je voulais revenir, c'est la deuxième question dont je voulais répondre. Oui. Il y a déjà un club national des sous-traitants. C'est un club qui est déjà là, qui existe. Et le mois passé, le club a fait un grand événement à Kinshasa, dont toutes les autorités de tutelle, du ministère de l'Entrepreneur et autres, étaient présents. C'est timide, c'est en train de prendre forme. Et l'entrepreneuriat, ici chez nous, cette culture, elle est en train de s'impliquer, mais ce n'est pas une vieille culture. Donc il ne faut pas tout de suite nous condamner. Mais à cela, il faut aussi ajouter notre culture personnelle. Je pense que la façon dont nous, Congolais ou Africains, bon, je pense Congolais c'est mieux, la façon dont nous approchons l'argent et la façon dont les Indiens et les autres approchent, ou les musulmans approchent, c'est deux choses différentes. Parce que nous, on est tellement égaux, tels que aujourd'hui, les entreprises qui se font en partenariat ne résistent pas. On arrive toujours un temps, on se partage. Ça, c'est un fait tout à fait culturel. Pourquoi? Donc, moi, je vais condamner, parce que l'union fait la force. Nous ne sommes pas très unis, c'est un handicap, mais je signale qu'il y a un club national de sous-traitants qui existe et on exerce. Il y a une présidence et toutes ces choses. Donc, nous donnons encore la chance à ce club. Avec le temps, parce que c'est un club qui n'a que je pense 2 ans ou 1 année, avec le temps, et même la loi sur la sous-traitance que nous sommes en train de vanter ici n'a que 5 ans. Donc c'est un début de choses et nous espérons que avec le temps, nous arriverons à relever beaucoup de défis. Le boss, quand on le paye, il voyage. Encore plus, je peux partir encore plus de la culture. Ça signifie que nous devons, comme un jeune a dit, nous devons nous former parce que à l'échelle des millions, on doit être suffisamment informé sur ce qui se passe. Mais si vous n'êtes pas suffisamment formé, c'est pour ça que j'ai fait 2, 3, 4 conférences ici en entrepreneuriat. Je suis habitué de cette salle. Je suis un coach en entrepreneuriat. Mais j'ai toujours été choqué parce que les jeunes, surtout de notre province, ne sont pas trop intéressés. Les gens commencent à prendre un intérêt de l'entrepreneuriat quand ils terminent les études et qu'ils voient que le marché de l'emploi est difficile. Donc il faudrait que les jeunes puissent déjà, à partir de banc de l'école, puissent cultiver cet esprit entrepreneurial. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que si vous avez un état d'esprit déjà suffisamment avancé, même si vous avez 1 million, vous aurez suffisamment des projets qui vous disent que non, il faudrait que j'investisse là, là, là. À ce moment-là, même si vous avez l'argent qui tombe, vous saurez comment l'affecter, prendre soin de vos agents et toutes ces choses. Si certains boss, je le dis, font ça, donc
ça veut dire que certains Congolais, dès qu'il a 1 million de dollars, c'est fini, il est enivré, et il se tape des policiers, 3, 4 policiers, il voyage et il ne paye pas les gens.
Bon, ça, c'est pas seulement le Congolais. Tous ceux-là qui n'ont pas cette culture même internationale, ils peuvent, parce que il faut développer son état mental. Parce que l'argent a un esprit. Ça peut t'emporter. C'est pour ça que nous disons que la formation est de mise. La formation, c'est une base très, très importante. Discrimination, qualité de travail. Ça, c'est un débat que les entreprises principales nous accusent. Ils disent que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, pour essayer de nous écarter. Moi, je vous dis, j'ai commencé par travailler dans ces entreprises minières. J'ai été formé à l'extérieur du pays. J'ai suffisamment d'expérience par rapport à ce que je fais.
Alors, est-ce que les ingénieurs que vous avez placés dans ces entreprises sont payés de la même manière que ceux qui sont dans les entreprises mères?
Non, c'est même un problème. C'est même un problème. Il y a quelqu'un qui a dit, tout cela est géré par nos frères congolais. C'est ce marché des sous-traitants. Quand il appartenait aux entreprises sud-africaines et les autres, le barème, la façon de les négocier, était différent qu'aujourd'hui que c'est dans les mains des Congolais. Ça veut dire un marché, un béton qui se faisait à 1000 dollars le mètre cube, aujourd'hui c'est à 250-280. Vous voyez déjà cet écart-là, et moi Congolais qui est ce marché, parce que cette compétition qui a ouvert le marché à tout le monde, fait que le mieux offrant c'est celui à qui on donne le marché. Et ça c'est une grande handicap que nous avons. Un marché qui coûterait 300 000 dollars, quelqu'un le cote à 80-300 000 dollars, on lui le donne. Et à ce moment-là, Quel est le salaire qu'il va donner à ces gens pour qu'ils puissent être capables?
Et il semble qu'il y a aussi cette affaire de commission, de retour. Hein, je te donne un marché et toi, tu me retournes 40%.
Bon, toutes ces choses, je ne vais peut-être pas les parler ici parce que c'est déjà le commun de tous. On connaît déjà comment ça se passe et sous des pressions de ça, s'il n'y a pas un ordre établi, parce que c'est punissable. Dans toutes les entreprises, c'est punissable. Mais c'est des affaires. C'est difficile que eux les contrôlent, ou c'est difficile de notre côté que ça soit contrôlé. Et nous sommes dans cet embouglio où on doit être régulé par un mécanisme qui nous protégerait à ce que nous puissions bénéficier des services en contrepartie, oui, qui nous donne l'opportunité de payer nos agents correctement, de faire un travail de qualité et de satisfaire et les marchés, les entreprises qui nous donnent et nous-mêmes. Maintenant, si vous vous retrouvez dans des conditions où le marché qu'on vous donne par rapport au budget que vous avez négocié est inférieur, vous êtes obligé de bricoler. Et ça, tout de suite, on est accusé. Donc, il faut entrer à l'intérieur et essayer de disséquer, de regarder chaque point pour que nous puissions être capables de critiquer ou de parler des entrepreneurs congolais. Ça, c'est un aspect. J'ai suivi quelqu'un qui a parlé de la non-confiance des Congolais. La difficulté aussi, c'est laquelle? Vous avez un marché, vous avez un budget établi. Vous dites que à la fin du mois, mon budget ou mon enveloppe salariale, il est de 100 000, il est de 120 000 dollars. Tout de suite, là, vous avez l'argent en compte, un autre marché tombe. Qu'est-ce que vous faites? Devant le marché, on choisit des fois exécuter un autre marché et on prend l'argent qui était affecté à l'enveloppe salariale. Ça signifie, c'est pour quand nous parlons de préfinancement, de toutes ces choses, ce n'est pas qu'on n'est pas naïf. Nous sommes dedans, nous regardons en face, nous sommes en Afrique du Sud, parce que nous y allons, comment les choses se passent, et si nous sommes en Zambie, comment les choses se passent, et quand on est au Congo. Ça, le problème des banques ou le problème d'investissement sous cet aspect, oui, ce n'est pas un problème de confiance des Congolais, c'est un problème de structure au niveau de notre pays où on ne sait pas identifier les gens. Parce qu'on peut donner l'argent aujourd'hui, tu disparais. Et les deux parties, et les banques, et nous, cette confiance n'est pas établie.
D'accord. Donc, merci, monsieur Harry. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Maître Chadrak.
Merci, monsieur Dodi. Vous comprendrez dans tous ces débats que moi, je reviens à responsabiliser l'État congolais parce que la loi ou la Constitution, dans son article 35, dit bien l'État encourage, protège et promeut. Il devait promouvoir. Dans tout ce qui se dit ici, vous comprendrez, je ne vois pas l'intervention de l'État pour protéger ainsi que jouer le rôle de promouvoir les entrepreneurs locaux. Est-ce que si le contrôle était fait correctement, quelle est l'influence de l'État? Quelles sanctions a-t-il donné? Ce sont des mesures correctives. Ce sont des mesures qui permettraient que les entreprises respectent les Congolais. Mais lorsque vous prenez l'article 12, vous comprendrez que cet article a laissé une lacune. L'État dit, dans les 12 mois qui suivent la mise en œuvre de cette loi ou la promulgation de la loi, les entreprises étrangères devraient se constituer en entreprises à capitaux congolais pour terminer les contrats en cours. Mais est-ce que l'État a suivi pour voir si les contrats qui étaient en cours, ces entreprises avaient fini pour qu'ils partent et laissaient aux Congolais d'occuper les places? Il n'y a pas eu ce suivi. C'est-à-dire, même s'ils avaient déjà fini, si nous prenons 2017, 12 mois après, dans les 12 mois, est-ce que ces entreprises-là sont-ils parties? Il vous dira non. Ce sont les mêmes entreprises sous-traitantes étrangères qui continuent jusqu'à ce jour. Donc il n'y a pas suivi. L'État lui-même ne fait pas les suivis pour voir, et même les Chinois, les Indiens et les autres qui sont venus savent que au Congo, les autorités ne respectent pas, et même les lois qu'ils édictent. Ils connaissent la faiblesse de l'État congolais, il est là pour mettre des lois, mais faire les suivis de la mise en œuvre de ces lois, ça fait défaut. Alors ça, c'est un problème sérieux qu'il faudrait sensibiliser. La société civile, comme l'auditoire l'a dit, nous avons fait des consultations récemment, nous avons parlé avec des entrepreneurs. Nous sommes allés jusqu'à Kinshasa, on a fait les plaidoyers au niveau local, et ces plaidoyers, nous l'avons amené jusqu'à Kinshasa pour montrer les conditions dans lesquelles les entrepreneurs congolais, les PME congolais, sont en train de travailler. Nous avons déposé, la société civile n'arrête pas, la société civile est là pour observer, constater et faire rapport à qui des droits, et ces rapports s'expriment en termes de plaidoyer. Nous l'avons fait et nous le faisons. Lorsqu'il faut parler de la question de la TFM, oui, la société civile travaille et certaines questions, nous ne les traitons pas dans un seul jour. Ça demande une documentation. Je vous informe que nos collègues de Fungurume sont en train de travailler sur cette question parce qu'il a dit, viens, si vous regardez, aujourd'hui c'est une entrave au développement de nos communautés parce que la redevance n'est pas payée à la chefferie de Bayeke et particulièrement à la commune de Fungurume qui ne dépend que d'une seule entreprise de la TFM. Nous avons été, j'ai parlé moi-même avec le bourgmestre, il a dit que c'est un problème sérieux pour même le fonctionnement de la commune. Parce que tout dépend de ce que la TFM devait payer en termes de redevances minières. Nos collègues travaillent et c'est un cadre de concertation installé avec une autonomie de travailler et de résoudre des questions de la commune. Lorsque nos collègues, ils ont fait rapport sur plusieurs questions, lorsqu'ils auront vidé leurs moyens de recours, je pense que les cadres provinciaux, nous allons nous compléter pour résoudre la question de la TFM.
Quelqu'un a dit tout à l'heure pourquoi la société civile ne se lance pas dans la formation des entrepreneurs.
Je suis géré, il a dit, il forme. Mais la société civile a montré sa bonne foi. Je vous ai dit, aujourd'hui, le guichet unique que nous avons, c'est le fruit du plaidoyer. C'est le cadre de concertation. La société civile du là-bas, qui est allée à Kinshasa parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un besoin. Comment peut-on aider cette jeunesse qui veut entreprendre? Il ne faudrait pas aller à Kinshasa pour obtenir la réglementation. Oui. Il faut qu'un bureau soit installé ici. Le bureau est ici à Kolwezi grâce aux efforts à 100% menés par le cadre de concertation ou la société civile du loi là-bas. Donc c'est un effort formé en amont et en aval. Nous comprenons que les entreprises elles-mêmes sont en train de se former. Il faut encourager. Mais la loi, dans l'article 12, l'article 12 dit il faudrait que les entreprises mères mettent la politique en œuvre des formations pour rendre les entreprises locales capables, ayant des capacités de rendre les services qu'ils attendent. Ils ne doivent pas dire toujours, les entreprises congolaises ne sont pas capables. Mais cette capacité, l'auront comment? Il faudrait, comme la loi le dit, l'autorité compétente devait suivre pour dire, est-ce que au sein de votre entreprise, cette politique demandée par la loi est-elle mise en œuvre? C'est pourquoi j'insiste pour dire l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Les autorités compétentes selon les secteurs ne font pas ce que la loi leur demande afin de protéger et d'aider les Congolais à accéder au marché et à faire ce qu'il faut faire.
D'accord. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des maisons qui se retrouvent avec des fissures, tout ça, et la société civile ne dénonce pas.
Oui, bien que c'est une question qui ne va pas dans la sous-traitance, je dois dire bien que j'ai été... Société civile, nous avons été, moi particulièrement, autant de fois en Gécamines. Et hier, je vous informe que nous étions dans une réunion avec Comis, au ministère de Mines. La semaine passée, nos collègues ont été sur le terrain pour observer. Il y a déjà un processus, c'est pour voir de quelle manière cette entreprise, par la pression, qu'elle puisse arriver à délocaliser cette population. Il y a un travail qui s'est fait déjà dessus, il y a déjà presque une année, mais nous voulons que l'entreprise ne les fasse pas sélectivement, mais qu'il aille en bloc. Parce que jusque-là, il y a une politique sélective de délocaliser les gens qui se trouvent dans un sérieux danger. Mais nous pensons qu'il faut y aller par bloc.
Bien, on chemine petit à petit vers la fin de l'émission. On va prendre la dernière série de questions. Venez rapidement de ce côté et puis On va clôturer ce programme au Capi Service en direct de l'amphithéâtre de Moussompo à l'université de Colosi. Ah, c'est le médecin qui revient.
Merci Jody. Je reviens ici pas pour une question, plutôt pour une suggestion ou une moitié de réponse. Moi, je dirais que nos autorités ici localement n'ont pas la parole.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quoi? Toutes les entreprises qui viennent ici, ils sont appuyés à partir de Kinshasa. Ils viennent bien sûr avec tous les documents à partir de Kinshasa. Et quand ils viennent, ils ont déjà payé tout ce qu'ils ont là-bas.
À Kinshasa.
À Kinshasa, bien sûr.
Oui.
Par ceux qui sont là. Et ils viennent ici qu'avec les documents et pour l'implantation. Quand ils, nos frères, les entrepreneurs, ne peuvent pas vraiment implanter ou entreprendre les PMEA. Vous avez entendu Maître Chadrach l'a dit, il l'a soulevé ici. Nos autorités, à partir de Kinshasa, ils promulguent des lois, mais qu'ils ne respectent pas. Vous verrez qu'ici, en province, nous avons même une grande difficulté, et surtout dans notre province ici, où tous les rapports ne passent peut-être pas par l'Assemblée provinciale, et ça va directement à Kinshasa. Et quand les entreprises viennent ici, notamment à Kolwezi, dans la province de Lualaba, ils ont déjà tous les documents pour les entreprises et pour les petites et moyennes entreprises. Donc, nous avons cette difficulté-là dans cette province. J'espère qu'ils donnent ce qu'ils peuvent donner et tout ce qui peut être là. Dernièrement, j'ai suivi à la radio où les députés sont partis faire la vérification sur Maison Moussompo. Ils n'ont pas eu l'accès pour entrer et faire leur travail. C'est une grande difficulté que nous avons. Donc les entreprises ici, ils viennent, ils ont tout, ils sont appuyés.
Tout s'est fait à partir de Kinshasa.
Tout s'est fait à partir de Kinshasa. C'est la grande difficulté que nous avons. Et je ne crois pas que les petites et moyennes entreprises peuvent bien se situer et bien faire leurs travaux.
Merci, merci monsieur. On prend les dernières questions et on va clôturer cette émission sur la sous-traitance. Oui, madame.
Oui, merci pour la parole. Je remercie d'abord, premièrement, le coach Henri Aznawej pour les efforts qu'il fournit pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes avec l'école ILEAD. En fait, je pense qu'il a déjà répondu à ma préoccupation, qui était celle de savoir, il y a quelques années, quand on a révisé la loi portant sur la sous-traitance, nous avons vu beaucoup d'entreprises naître à Kolwezi, créant de l'emploi, tout en luttant contre le chômage. Mais quelques années plus tard, moins de 10 ans, beaucoup d'entreprises se sont effondrées. Bon, c'est vraiment inquiet, triste, parce que plus il n'y a pas beaucoup d'entreprises des locaux ou des nationaux, on a beaucoup de chômeurs et le taux de pauvreté est en hausse.
Et la délinquance, tout ça, le banditisme suit.
Oui. Au fait, moi je pense que si nous suivons les témoignages des milliardaires ou beaucoup de millionnaires, notamment des Américains, quand ils expliquent en écrivant, ils ont écrit beaucoup de livres, comment est-ce qu'ils ont excellé, c'est parce qu'ils lisent, ils mettent beaucoup de temps dans la lecture. Mais nous les Congolais, nous n'avons pas cette culture de lire. Aussi longtemps que on n'aura pas la culture de lire, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles...
À la base de l'effondrement des entreprises.
Oui, on n'excelle pas. Je pense qu'il faut vraiment promouvoir la lecture dans ce pays. Il le faut. C'est le moment ou jamais. C'est un peu ça mon apport. Merci.
Bien, et quels sont les genres de livres que les entrepreneurs doivent lire? Évidemment, on est...
Ah, il y a beaucoup de livres. Il faut voir, monsieur le coach Henri, avec l'école ILEAD. Il y a beaucoup de livres très intéressants dont je voulais même partager un titre avec l'auditoire. Le titre, c'est « Plus tard, c'est maintenant ». C'est un livre très intéressant.
D'accord.
Merci.
Merci, madame Claudia. Oui, madame.
Ok. Bonjour.
Bonjour.
Moi, c'est Rhode, étudiante de premier doctorat métier. En fait, ma première question, je demande à l'ingénieur Henri Havs. Il a parlé en disant qu'il a l'habitude de former le jeune ici. Mais je me demande, il informe ou bien il vient seulement, il encadre que les gens de l'économie, d'autres personnes ou bien les gens de métier ne sont pas intéressés? Parce que moi, je n'ai jamais été au courant de ça. C'est quand il vient de parler. Et aussi, bon, moi, je suis pas trop de Colésie, mais quand même, j'habite Colésie. S'il faut vraiment, je ne sais pas ça, c'est, si c'est une question ou bien je peux dire remarque ou un constat. En fait, moi, je trouve que le Chinois, le Sud-Africain, les Indiens sont plus considérés que les Congolais. Vous vous rendrez compte que quand les gens de migration partent faire des enquêtes pour savoir si ces gens, ils ont leur visa, leur passeport, pour voir, vous vous rendrez compte que chaque étranger qui est ici a quand même quelqu'un qui les Congo, si je peux dire ça. Dès que vous partez chez un Indien ou un Chinois, dès que vous êtes là,
oui,
c'est une autorité de la place qui appelle pour dire « ça, ce sont mes personnes, ne touchez pas là ». Et avec ouais. Ça, vous pensez vraiment que on va avancer. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous attendez pour changer ce pays?
D'accord. Merci beaucoup, madame. On est arrivé presque à la fin de l'émission. Monsieur Yav, rapidement. Il semble que si les entrepreneurs, certains n'évoluent pas parce qu'ils lisent pas assez.
Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je suis entrepreneur, je suis coach en leadership. Je suis auteur de 3 livres. Et dans mon premier livre, j'ai insisté, parce que c'est comment réaliser ses rêves, et j'ai insisté sur la lecture. Disons que j'ai dit, de par notre culture, parce que la culture du développement personnel, la culture entrepreneuriale, elle est beaucoup plus américaine. Et quand vous voyez pratiquement les Américains dans le développement personnel, il faut d'abord développer le soi, il faut d'abord développer la personne pour que tout ce que nous avons autour de nous puisse être attiré à nous. En fait, c'est beaucoup de philosophies autour de ça qui que je fais dans mes coachings, dans mes formations. Ici à l'université, j'ai une opportunité d'être invité par mes amis de la faculté de l'économie, je viens. Mais dans la province, je suis très connu comme coach. La radio Mikuba me consulte souvent. Je suis avec eux et presque toutes les chaînes ouais. Pour dire que si madame ne me connaît pas, c'est que quelque part elle n'est pas très intéressée par la culture au niveau de la province. Parce que nous faisons même avec iLeads, comme madame l'a dit, nous appelons des coachs à l'international, des Américains, des Canadiens.
D'accord. Parce que nous estimons que
le développement personnel ou la croissance de la personne va faire en sorte que qu'il puisse faire face aux défis de son environnement et y apporter un plus. Merci beaucoup.
Merci monsieur Maître Chadrak, pour terminer. Micro. Oui, allez-y.
Pour terminer, je vais dire qu'il faut une volonté politique réelle dans l'accompagnement, dans la promotion et la protection de l'expertise locale. L'État doit faire quelque chose, que les autorités sectorielles fassent ce que la loi leur demande. Nous espérons qu'au niveau de l'ARSP, comme on venait de changer l'équipe,
les animateurs, oui.
les nouveaux dirigeants devraient fournir des efforts pour qu'on constate vraiment un changement dans le secteur, que lors de leur passage, que ce ne soit pas des passages comme on a vu, autant de fois ils sont venus, mais les choses sont demeurées telles qu'elles étaient avant qu'ils ne soient passés. Donc nous voudrions leur interpeller de travailler de manière que, à leur passage, après, les gens comprennent que cette nouvelle équipe a été une équipe compétente qui a travaillé pour l'intérêt des Congolais.
Quelqu'un a dit tout à l'heure que tous les papiers sont signés à Kinshasa et ici la province ne se retrouve pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire rapidement?
Bon, si les compétences reviennent à Kinshasa dans la signature de certains documents, cela n'est pas un problème. Le problème, c'est la mise en œuvre localement. Ça veut dire que les autorités compétentes de Kinshasa ont aussi la compétence ici. Il y a des papiers actuellement qui sont donnés à Colésie, j'ai dit bien. Au niveau de la sous-traitance, les PME, nous avons un guichet unique de création d'entreprise qui permet d'obtenir plus de 80% des documents localement.
Maître Chadrak, merci. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements? Merci d'applaudir très 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 fort. Merci beaucoup à Monsieur Henri Yav, qui est entrepreneur et coach en entrepreneur. Est-ce qu'on peut l'applaudir très 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 fort? Applaudissez aussi très fort pour vous-même. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission au Capi Service en direct de l'amphithéâtre de Moussompo à l'Université de Kolwezi. Nous disons merci à toute l'équipe de production. Marcel Ngombo, Lesh Walassa, Jean Gandou, Jonathan, Bob Landou. Et merci à vous tous qui étaient là pour participer à cette émission. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Et tout le plaisir était pour nous de vous servir. Merci et à la prochaine. Allô? Bien, je voudrais juste...